ensemble dans le jardin de la Villa Médicis et découvrons des recoins inattendus. Ferdinand de Médicis, le cardinal qui a fait construire la villa, avait de nombreuses statues précieuses dans son jardin. Mais il y avait aussi des endroits dédiés à ce que l'on appelle le jardin utile. Par exemple, auriez-vous imaginé qu'il y avait un potager et un poulailler à la Villa Médicis ? Bienvenue dans la série de podcasts sur les secrets du jardin de la Villa Médicis. Je suis Lucie Laurent et aujourd'hui, je vous ferai découvrir une partie du jardin à laquelle vous n'auriez jamais pensé. Derrière les hautes haies de laurier, dans ce que l'on appelle des carrés, où vous pouvez admirer des statues anciennes, il y a une partie pour le jardin utile. Nous allons découvrir en quoi cela consiste. D'abord, sachez que le jardin de la Villa Médicis est un jardin typique de la Renaissance, avec des formes géométriques, des haies et des arbres feuillus. Les couleurs du jardin varient selon les saisons entre les nuances de vert et de marron. Allons donc voir l'un des carrés en passant par une petite ouverture dans la haie. C'est là que l'on trouve une partie dédiée au jardin utile. C'est-à-dire que l'on y trouve des plantes que l'on peut cultiver pour les utiliser ensuite en cuisine. Car aujourd'hui, la Villa Médicis se trouve en plein cœur de la ville de Rome. Mais quand Ferdinand de Médicis y venait, ce n'était pas le cas. La villa était une villa de campagne, à la bordure de la ville. Et à son époque, l'époque que l'on appelle la Renaissance, les jardins des villas étaient aussi dédiés à la production de nourriture, comme les fruits, les légumes, mais aussi quelquefois à l'élevage. Dans la période précédant la Renaissance, pendant le Moyen Âge donc, les habitations rurales de la campagne ont été abandonnées par leurs habitants pour échapper aux invasions barbares après la chute de l'Empire romain. C'est pour cette raison que pendant de nombreuses années, on cultivait plutôt à l'intérieur des murailles de la ville pour être en sécurité. Et à l'extérieur des murailles, on pratiquait la chasse et l'élevage, ainsi que des cultures mineures. Mais ensuite, pendant la Renaissance, le jardin conserva sa partie utile, mais il acquit ensuite une nouvelle fonction. C'est une fonction décorative. Cela veut dire que l'on décide de se servir du jardin, de ses plantes, de ses arbres, pour montrer que l'homme est maintenant capable de dominer la nature à travers la science et l'art. Cela devient vraiment spectaculaire. C'est ainsi que naissent les grands parcs et jardins avec leurs palais, comme celui de la Villa Médicis. Parfois, les jardins sont encore plus importants et spectaculaires que les palais eux-mêmes. Désormais, l'homme peut dominer la nature et la plier à sa volonté en l'insérant dans la grande œuvre d'art qu'est le parc d'une villa. Avez-vous déjà vu un jardin spectaculaire ? Qu'est-ce qui vous avait le plus impressionné ? Les fontaines ? Les arbres ? Les grandes distances ? En tout cas, on pourrait faire de très grandes parties de cache-cache dans ces grands jardins. Mais maintenant, imaginons les heureux habitants de ces villas qui profitaient des beaux jours pour se promener dans leurs jardins, flâner dans les allées et recueillir les fruits directement dans les arbres. À la Villa Médicis, encore aujourd'hui et dans le temps aussi, c'est grâce aux jardiniers et aux artistes que la nature se transforme en quelque chose de magnifique. Elle n'est plus dangereuse du tout. L'homme peut enfin vivre en harmonie avec elle et profiter de ses fruits, comme s'il était dans le jardin d'Éden. À l'époque de Ferdinand de Médicis, le jardin devait être rempli de fleurs et d'herbes, comme le basilic, cultivé en pots de terre cuite disposés autour d'un gazon. Dans le verger, les allées devaient être bordées d'arbres fleuris disposés symétriquement comme les cèdres, les cerisiers en fleurs avec des guirlandes de roses. Dans la villa, il y avait aussi un vignoble où les pergolas de vignes étaient soutenues par des colonnes de marbre décorées de roses parfumées. Dans le labyrinthe, les allées étaient couvertes par une voûte ombragée de branches entrelacées de genévriers, de myrtes ou recouvertes de lierre. Les fontaines étaient entourées de vases et d'amphores fleuries. Marcher dans le jardin de Ferdinand de Médicis devait être une expérience inoubliable. De nos jours, le jardin est différent, mais les jardiniers ont vraiment travaillé dur pour reconstruire certains de ces espaces, tels que le potager, le verger et le nouveau vignoble. Aujourd'hui, on peut encore voir l'espace en forme de diamant, par exemple, où le romarin pousse au centre d'un rectangle de pelouse vert vif, avec un cadre fait de belles fleurs violettes et jaunes, les iris. Dans le verger, les sentiers sont soignés, géométriques, décorés de plantes parfumées de lavande, et les grenades poussent sur des rangées en forme de chandeliers. Une nature faite de plantes, mais de plantes vraiment très belles. Les chercheurs ont aussi découvert que pendant les 8 ans où Ferdinand a vécu dans la Villa Médicis, il a également fait construire un poulailler, très pratique pour les cuisiniers de la cour. Ferdinand était très fier de son poulailler et aimait les animaux comme les poulets albinos, les coqs, les paons et les faisans. Dans le jardin, il y avait aussi des dindons. Mais à l'époque, on appelait ça le poulet indien parce qu'il venait de l'Amérique. Mais il était trop précieux pour être utilisé dans la cuisine. En fait, il faisait partie de la collection d'animaux rares et exotiques de Ferdinand de Médicis. Malheureusement, aujourd'hui, le poulailler n'existe plus. Mais depuis quelques années, une belle famille de paons vit en liberté dans le jardin. On les rencontre très souvent quand on visite les jardins. Parfois, on peut même voir le mâle qui fait la roue et ouvre sa queue majestueuse de 1000 couleurs. En avez-vous déjà vu ? Le paon est l'un des animaux les plus colorés que vous pouvez rencontrer. Sa queue multicolore est si célèbre qu'aujourd'hui, le paon devient presque une œuvre d'art que l'on utilise comme une décoration dans les jardins. Pourquoi n'essayez-vous pas de le dessiner ? Vous pouvez chercher une image pour vous inspirer ou laisser libre cours à votre imagination. En tout cas, je vous recommande d'utiliser toutes les couleurs à votre disposition pour colorer sa belle queue en forme de roue.